Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Mathieu Dardet. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et au téléphone, nous avons Nicolas Heredia. Bonjour.
Bonjour.
Tous deux, vous êtes avec nous pour nous parler d'une représentation qui aura lieu ce vendredi 21 novembre à 19h et qui s'intitule « L'origine du monde », entre parenthèses 46/55. Et c'est proposé avec vous, Nicolas, et la vaste entreprise. Alors, avant tout, on peut peut-être parler de cette vaste entreprise. Quelle est-elle ? Et quelle envie de proposer ce mouvement ?
Pour dire quelques mots rapidement de la compagnie, donc la vaste entreprise, donc c'est une compagnie qui existe depuis 2007, donc ça commence à faire un petit bout de temps, et on fait des projets qui sont des formes souvent un peu hybrides, en tout cas qui empruntent à la fois au théâtre et aux arts visuels, ça mélange un peu des choses comme ça. La spécificité de la compagnie aussi, c'est qu'on présente notre travail autant dans des théâtres que dans des musées ou des centres d'art et en espace public. Et c'est aussi une manière d'abord de proposer des formes qui sont assez différentes, mais aussi de les présenter et de les partager avec des publics qui sont assez variés, ce qui est quelque chose qui nous importe aussi beaucoup.
Cette proposition de l'origine du monde, inspirée de ce tableau de Gustave Courbet, qui représente ce corps dénudé d'une femme, sans tête, ni bras, ni jambes, mais complètement offerte au regard. Pour vous, ça a été le point de départ de ce spectacle. Et puis, vous nous direz peut-être aussi cette motivation de ce partage et quelle est l'intrigue aussi de ce spectacle.
Alors, oui, je peux vous en dire quelques mots. Alors, déjà... Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est à peu près jamais question du sujet de la toile. Donc, on n'apprendra rien sur l'histoire de ce tableau et sur son sulfureux sujet. Mais par contre, l'histoire, elle est née d'un hasard. C'est-à-dire qu'un jour, je suis passé devant une brocante et il se trouve que j'achète toujours plein de trucs dans les brocantes parce que voilà, je me dis toujours que ça peut servir pour un prochain spectacle. Et ce jour-là, je tombe vraiment par hasard sur cette copie de l'origine du monde. Et que quand même, forcément, je me dis « Ah, mais quand même, ça, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. » Et en fait, je demande le prix de ce tableau et il se trouve qu'on me répond 200 euros. Et que là, je trouve ça quand même un peu beaucoup. Et donc je réfrène mes ardeurs et je rentre chez moi raisonnablement. Mais finalement, une fois rentré chez moi, je me dis « Non, mais je suis sûr que je suis passé à côté d'un truc, en fait. » Cette toile, c'est forcément le début de quelque chose, c'est forcément le début d'une aventure, c'est probablement le début d'un spectacle. Donc, je me mets à avoir très peur d'être passé à côté de quelque chose et que la toile ait été vendue entre-temps. Et voilà, j'en dis pas plus parce que c'est vraiment le tout début du spectacle. Et à partir de ce hasard et de cette aventure, le spectacle ensuite va dérouler un certain nombre de questions qu'on partage avec le public sur la valeur de cette toile qu'est-ce que c'est la valeur de cette toile, qu'est-ce que c'est la valeur des choses, qu'est-ce que c'est la valeur de l'aventure, sur quoi on mise, sur quoi on parie et quelles sont les répercussions de nos choix, fussent-ils anodins, dans nos vies et voilà.
Mathieu, vous-même, qu'est-ce qui vous a incité à produire, proposer ce spectacle au théâtre de Die ?
Donc, d'abord, c'est une compagnie que je connais depuis bien longtemps, avec qui j'ai été beaucoup en échange quand je travaillais dans l'Hérault, il y a maintenant plus de 7 ans auquel je suis parti. Et après, pour moi, c'est une pièce que je trouve intéressante parce que je la trouve originale dans le fond et dans la forme. On est sur un endroit qui est à cheval entre la performance et le théâtre. On est sur une pièce qui est vraiment singulière, qui est à l'image du travail de Nicolas, à la fois un endroit qui relève de choses qui lui sont très très propres et qu'il arrive vraiment à partager dans une démarche qui est pour moi résolument originale et qu'on retrouve dans l'ensemble des pièces qui constituent maintenant son répertoire, parce qu'une compagnie qui a presque 20 ans et autant de spectacles, c'est ça qui nous fait vivre. Après, il y avait deux enjeux qui m'ont encore donné envie de l'amener ici et de l'accueillir. Le premier, c'est de se dire que c'était aussi une façon de faire la chasse à la nouveauté et d'avoir un spectacle qui a plus de 7 ans de vie. Je trouvais que ça avait aussi un sens par rapport à la vie culturelle. On est toujours à chercher la nouveauté et de se positionner sur des propositions systématiquement innovantes. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, elle donnait un endroit de légèreté et de fantaisie dans la programmation. Que je trouvais important à donner sur cet automne-là et que c'était aussi une façon d'ouvrir le travail de la programmation. Pour l'instant, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont déjà eu un rapport et un lien avec le théâtre Les Airs. Donc là, c'était aussi une occasion d'aller dans une nouvelle direction artistique, de lancer des nouvelles collaborations et des premiers échanges avec cet artiste-là.
Nicolas, à la vue de ce tableau, cette copie, donc, est-ce qu'il y a eu en premier lieu ce renoncement, hein, vu de la valeur de cette copie, mais est-ce que cela a éveillé en vous une sorte de quête ?
Eh bien, disons que à partir du moment où je suis rentré chez moi et que j'ai commencé à regretter cet achat, là a commencé la quête, en fait. A commencé la quête d'abord d'avoir très peur d'y retourner et qu'elle n'y soit plus. Et ensuite, après, je ne voudrais pas trop spoiler, mais ensuite, toute l'écriture du spectacle, finalement, relève, si ce n'est d'une quête, oui, d'une quête, ou en tout cas d'une aventure sur essayer de comprendre pourquoi j'avais eu du mal à passer à côté de cet objet et puis il a ensuite été l'objet de quelques aventures, quelques pérégrinations pour déterminer sa valeur et comme dit Mathieu, effectivement c'est toute cette aventure et c'est ce que je partage précisément avec le public et il y a en effet quand même de la fantaisie ou en tout cas de l'humour sur comment on entrevoit une espèce de un système de logique absurde, on va dire, autour de la question de la valeur que j'attribue à cette toile qui devient presque un prétexte à cet exercice de pensée qui à la fois nous fait réfléchir à la valeur des objets, mais plus largement à ce à quoi on attribue de la valeur dans la vie, ce qui est quand même une question beaucoup plus vaste finalement et qui dépasse cet objet-là prétexte. Voilà ce que je peux dire sur la question de la quête.
Et justement, cette question de ce tableau, est-ce que cela aurait pu être un autre objet ou une autre œuvre ?
Alors ça, je n'ai pas la réponse, puisqu'il se trouve que je ne suis pas tombé sur le Moulin de la Galette ou sur les tournesols de Van Gogh, il se trouve que je suis tombé sur cette toile de Courbet. Est-ce qu'une autre toile aurait déclenché chez moi cette même une idée, en fait, puisqu'au moment où je tombe sur cette toile, ou en tout cas, ou quand je rentre chez moi, tout d'un coup, je me mets à avoir une idée d'un spectacle. C'est ça qui se produit, en fait. C'est pour ça que j'ai peur qu'elle ait été vendue. C'est que tout d'un coup, je me dis, oh là là, mais là, je crois que je tiens un début de spectacle. Et donc, c'est ça qui est terrible. Et c'est ça que je veux pas, c'est à côté de ça que je veux pas passer. Et donc, finalement, est-ce qu'une autre toile aurait, comme ça, déclenché mon imaginaire et mon désir d'un spectacle? Je suis pas sûr. Je pense que celle-là a évidemment quelque chose de tellement iconique et malgré le fait que je m'emploie soigneusement à ne pas évoquer le sujet du tableau et son histoire, malgré tout, son statut d'image iconique étant ce qu'il est, je pense qu'il a déclenché, oui, quelque chose. Et puis, je vois bien avec les spectateurs et spectatrices, à chaque fois qu'on joue le spectacle, cette toile garde quand même intacte une force assez incroyable, quoi. Même si c'est une copie.
Et donc, il y a ce questionnement autour de ces aspects pragmatiques, philosophiques, économiques, poétiques. Ce sont des chapitres, en quelque sorte, où vous dissertez un peu sur cette aventure.
Oui, en tout cas, disons que je pars de questions très simples que je partage avec le public et à partir de ces questions, j'essaye ou on essaye de trouver des réponses, voilà, plus ou moins des fois tellement simples qu'elles peuvent paraître alambiquées ou un peu fantaisistes. Et en même temps, c'est vraiment ça, ce que je disais, c'est à la fois l'exercice d'une logique implacable appliquée à quelque chose qui fait qu'il n'y a plus rien de logique dans tout ça. Et pourtant, si. Et donc, c'est vraiment une espèce de petit. C'est vraiment un jeu de l'esprit, quoi, où en effet, l'humour a sa place, parce que quand, finalement, quand on agite un peu des questions, en tout cas, quand on tord un peu la logique, il y a toujours de l'humour qui peut poindre. Et l'idée, c'est vraiment d'embarquer les gens dans une pensée qu'on fait en même temps, qu'on fait ensemble, collectivement, pendant la représentation. Et qui finalement nous fait atterrir à des endroits où on ne sait plus très bien comment est-ce qu'on en est arrivé là dans la pensée, mais ça me paraît logique. Et c'est un spectacle qui est toujours très réjouissant à jouer parce que vraiment il se produit quand même quelque chose avec le public, une petite traversée comme ça de ces questions qui paraissent parfois invraisemblables, mais qui partagées collectivement prennent du sens et sont assez savoureuses, tout simplement, à partager collectivement. Quoi.
Mathieu, vous-même, avez-vous vu ce spectacle
plusieurs fois?
Et jusque ma question, et je la poserai aussi à Nicolas, est-ce que le public prend part aussi au spectacle?
Il y a une adresse publique, il y a une proposition de participation. C'est une main tendue qui est rarement prise. Mais je ne sais pas si Nicolas peut me contredire sur ça.
Non, puis on va pas trop dévoiler. Ce qu'on peut dire, c'est sûr, c'est que c'est pas un spectacle participatif au sens où ça ne demande pas ou ça ne suppose pas la participation du public. Donc tout le monde peut être rassuré sur ce point. Il n'y a aucune participation forcée de qui que ce soit. Les gens sont tranquillement dans leur position de spectateur et spectatrice, aucun risque. Mais il y a, en effet, on peut dire une main tendue à un moment qui permet pour celles ou ceux qui le souhaiteraient de prendre part, voilà, d'une certaine manière. Mais là, vraiment, on ne peut pas dévoiler plus.
Moi, je dirais juste que si vous allez voir un spectacle de théâtre, qui, par exemple, un solo... qui dit un texte, etc. Certains ont des adresses publiques qui sont plus ou moins directes, où on retrouve plus ou moins le quatrième mur. Je dirais qu'il n'y a pas une dimension participative, mais par contre, très clairement, Nicolas s'adresse aux spectateurs qui sont assis en face de lui. Le quatrième mur n'est pas là, on est sur un échange. Après, est-ce qu'il y a réponse ou pas réponse? Est-ce que la balle est renvoyée ou pas? Ça, c'est une deuxième question. Mais en tout cas, pour moi, ce qui reste, c'est fait partie de l'arrêté du spectacle. C'est que le public est interpellé.
Oui. Et qu'après, moi, je suis attaché globalement dans toutes les formes qu'on fait à ce qui est vraiment qu'on soit tous ensemble dans le même endroit. Je fais jamais dans mes spectacles, je fais jamais semblant parce que c'est pas un personnage. Je m'exprime en tant que moi-même. C'est Nicolas qui parle sur scène et c'est Nicolas qui s'adresse aux personnes qui sont présentes en les regardant elles et eux. Et donc, c'est vraiment on est tous ensemble dans la même pièce sans faire semblant d'être ailleurs ou d'être à une autre époque ou d'être que sais-je. Donc c'est peut-être ça qui on n'est pas dans un théâtre classique, on est quand même dans un théâtre mais un théâtre qui est vraiment un théâtre de l'ici et maintenant avec les gens, avec moi et les gens tels qu'on est à ce moment-là, à cet endroit-là, quoi. Donc c'est quand même parce que c'est toujours la question de la rencontre et de partager vraiment un instant, quoi. Et voilà, donc en effet, il n'y a pas de quatrième mur, il y a une adresse, en tout cas un moment partagé vraiment, quoi. Voilà.
Nicolas, vous-même, donc être sur scène en tant qu'individu, vous avez sur le registre de la compagnie La Vaste Entreprise une vingtaine de spectacles. Est-ce qu'il y a toujours cette idée de vous mettre à nu hein, devant un public avec des thèmes?
En tout cas, oui, ben c'est ce que disait Mathieu assez bien. Je me reconnais assez bien dans ce qu'il disait. C'est-à-dire que souvent, les sujets, les thèmes abordés partent vraiment de moi, c'est-à-dire de quelque chose d'assez personnel, qui m'est propre, qui est une préoccupation, voire une obsession très personnelle. Et après, en effet, tout le travail c'est de dire comment est-ce que des spectateurs, des spectatrices peuvent se reconnaître dans mes obsessions à moi. Sinon, on s'en fout un peu de mes obsessions. Ça n'a pas grand intérêt si c'est pas, s'il y a pas, si c'est pas mis en partage et si je ne pense pas que ça peut être que d'autres peuvent se retrouver dans le même sujet. Donc, je pense que les questions dans l'origine du monde, je le vois et on me le dit après la représentation. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde peut se reconnaître en fait dans les sujets qui sont abordés. Le premier étant, on passe à côté de quelque chose, tout simplement. Moi, je vois cette chose, j'ai envie, finalement, je rentre chez moi, je ne l'achète pas, et tout d'un coup, je regrette. Et donc, je repars à la hâte en espérant que cette toile n'ait pas été vendue. Bon, ben ça, je vois très clairement que ça parle à tout le monde. Et que ça soit pour des achats ou pour des choses plus métaphoriques, c'est-à-dire passer à côté de quelque chose tout simplement dans la vie en fait, et regretter d'être passé à côté de quelque chose parce qu'on n'a pas fait le choix à ce moment-là. Et donc ce sujet-là finalement c'est toujours pareil, c'est comment une histoire et un récit racontent plus que lui-même. Il y a aussi valeur métaphorique et il ouvre d'autres questions qui sont parfois plus existentielles. Donc voilà, c'est toujours comment une histoire, une petite histoire est prétexte à raconter un peu plus que ça. Voilà.
Mathieu, pareil, hein, il y a eu un écho dans ce spectacle qui interagit avec vous-même.
Ah bah, moi, ce que je trouve, c'est que cette pièce-là, elle interroge aussi un endroit de l'économie de l'émotion. C'est-à-dire que il y a un endroit qui est le point de départ du spectacle, une pièce, enfin artistique, une représentation d'un tableau qui a un coût et qui est le début de l'histoire. Mais toute la suite de l'aventure interroge aussi ces enjeux-là, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'on partage? Qu'est-ce qu'on a envie d'imaginer en termes de propositions de moyens par rapport à cette aventure-là, à la place qu'on y joue, à l'investissement qu'on y donne? Et je trouve que ça pose des questions, voilà, d'un rapport un peu large à l'art et à son économie qui dépasse la question de l'offre et de la demande, mais aussi de l'émotion qu'on y porte et du partage qu'on peut ou pas en faire et de la pension qu'on s'en donne. Donc, je trouvais que c'était un endroit qui était assez rigolo de se dire de poser un regard économique sur le rapport d'une œuvre et dans sa réalité qui dépasse sa réalité physique. On ne paie pas la peinture, on ne paie pas la toile, on paie tout ce que ça raconte autour. Et que je trouvais que c'était assez... Pour moi, voilà, ça interroge plus largement l'œuvre artistique, quelle qu'elle soit, théâtrale, picturale, filmographique. Pour moi, c'est cet endroit-là qui je trouve assez intéressant à imaginer avec le public.
Nicolas, dans le titre, l'origine du monde 46 par 55, pourquoi cette précision?
Eh bien, parce que les dimensions de la toile de Courbet sont de 46 par 55 centimètres, tout comme la dimension de la copie. Donc, c'est une petite précision d'exactitude de la copie qui me semblait importante par rapport à tout ce qui est ensuite déroulé dans le spectacle. Voilà.
Il y a aussi, à l'image de Gustave Courbet, qui s'est autoporträturé. Est-ce qu'il y a un aspect d'autoportrait dans votre proposition de spectacle ou dans les autres?
Oui, sans aucun doute. Après, c'est plus ou moins visible et je ne sais pas si le public s'en rend forcément compte et ce n'est pas forcément le but. En tout cas, je ne le présente pas au public comme étant un autoportrait, mais c'est sûr que dans chacun de mes spectacles quand même révèle pas mal de moi. Si on les met bout à bout, je pense que si on a vu tous mes spectacles, on commence à avoir une bonne idée de qui je suis, je pense, ouais. Mais après, c'est pas l'enjeu en soi. C'est que je pense que finalement, comme chaque artiste, j'imagine, si on voit tous les films d'un cinéaste ou on lit tous les livres d'un romancier ou d'une romancière, on commence à voir apparaître un peu une personne, oui, ça c'est certain, ouais.
Moi, je
Et
dirais.
l'origine du monde ne déroge pas à la règle. Et je pense qu'il dit quand même pas mal de ma façon de penser et de mon rapport au monde, ouais.
Et si on regarde un petit peu le parcours de Nicolas, moi, je n'oublie pas que la première fois que je l'ai vu en scène, c'était pour une adaptation de La Mastication des Morts de Patrick Carman, qu'ensuite il a monté L'Augmentation de Georges Perec, et que depuis, il est allé sur des choses qui relèvent de créations qui sont propres à son écriture, à son regard, à sa réalité. Donc pour moi, on peut aussi voir, en regardant ce trajet-là, la question de l'affirmation d'une identité artistique et d'une autonomie et d'un rapport aux mots qui sont maintenant les siens et qu'il porte. C'est une façon différente aussi de raconter une histoire que de se mettre derrière les mots de quelqu'un, que de dire les siens.
Nicolas, La Vaste Entreprise, c'est un nom assez... qui prête à l'imagination, mais quelle mission s'est-elle donnée, cette vaste entreprise?
Alors, bah, justement, Mathieu parlait de Perec à l'instant, et c'était aussi un clin d'œil de nom à Georges Perec et à L'Augmentation, effectivement, qui est un texte que j'aime beaucoup de Perec, qui est L'art et la manière de demander une augmentation à son chef de service, et qui est construite très malicieusement par Perec sous forme d'un espèce de jeu de loi un peu fou. On parlait de réflexion, de tourbillon de pensée, et de, bah, finalement, l'origine du monde emprunte aussi pas mal pas mal de mes spectacles quand même doivent sans doute à Georges Perec et à cette fantaisie et à ce côté à la fois formel et fantaisiste d'un univers. Donc l'origine ne déroge pas à ça. Et pardon, la question, c'était la vaste entreprise. La vaste entreprise, quelle mission s'est-elle donnée? Au tout début, en tout cas, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'était vraiment chercher le croisement entre les disciplines, c'est-à-dire comment moi je fais du spectacle vivant, je suis acteur, je suis metteur en scène, c'est ça mon champ de travail, mais j'ai aussi été énormément nourri des arts visuels, des expositions, des arts plastiques, et donc ça a été très tôt la question de dire comment est-ce que ces deux choses-là se rejoignent. Alors des fois dans la forme produite, c'est pas forcément si évident que ça, mais en tout cas dans les méthodes ou dans les influences, moi mes influences elles viennent autant des arts plastiques que du théâtre par exemple ou du cinéma. Et dans l'origine du monde, comme dans d'autres de mes projets, on peut retrouver un certain esprit de Fluxus par exemple d'artistes des arts visuels qui sont allés aussi du côté de la performance en général, qui ont en commun quand même un certain esprit joueur, un certain humour, tout ce champ-là on va dire des arts visuels et de la performance que peut incarner Fluxus par exemple, mais d'autres, et donc voilà, c'était ça en fait la mission on va dire qu'on s'est donnée, et qui est toujours le chemin sur lequel on essaye d'avancer, qu'est-ce qu'on peut produire comme forme un peu intéressante, un peu joueuse et un peu stimulante à partager en public, en mélangeant des influences qui ne sont pas uniquement celles du théâtre. Voilà.
Mathieu, il existe une certaine fragilité à vos yeux de ces spectacles de Nicolas?
Une fragilité, moi je dirais un principe d'incertitude. un endroit de dire que on est sur un endroit qui relève de quelque chose qui est à cheval entre un travail traditionnel théâtral et un endroit qui relève de la réaction de la salle et des interactions qui se font. Et que moi, Nicolas, il invite à des émotions, il crée des ouvertures avec le public et je trouve qu'il interagit aussi beaucoup avec ça. On n'est pas sur un artiste qui est neutre et indifférent à ce que fait la salle. Il y a une interaction dans la plupart de ses spectacles. Après, il y a peut-être un endroit que Nicolas et moi avons oublié de mentionner, c'est que Nicolas travaille à la fois le lieu théâtral, mais aussi l'espace public. Et que l'espace public est aussi un endroit qu'il travaille sur la question du prévu et de l'imprévu, de l'ordinaire et de l'extraordinaire, et d'aller chercher aussi des interactions avec les uns et les autres en se mettant en scène ou justement en ne créant pas d'interaction et en voyant ce qui se passe. Et que c'est là-dessus où, il y a un endroit où on n'est pas certain de ce qu'on va voir, mais l'aventure est promise.
Si ce n'est garanti, du moins promise.
Comme le disait Mathieu, c'est plutôt une démarche qui mêle l'incertitude, la recherche. Est-ce que vous avez cette je ne sais pas si on peut parler de peur, mais de doute même plutôt pour vos créations. Et combien même vous en avez une à proposer ? Est-ce que le public, justement, vous êtes sensible à sa réaction ? Et est-ce que ce spectacle peut peut-être varier ?
Ah oui, bien sûr, c'est même l'intérêt, sinon je ferai autre chose. Je pense que si c'est pas ça profondément qui m'intéressait, j'écrirais des livres ou je ferais du cinéma ou je ferais des expositions. Et j'adorerais faire ces trois choses-là, si ce n'est que c'est des formes inertes et qui ne sont pas partagées au même moment avec un public. Donc ce qui me retient vraiment encore et toujours, plutôt sur des plateaux de théâtre, c'est ça, c'est le fait qu'on partage la même chose au même moment et que ça, c'est quelque chose, je crois, dont je ne peux pas me passer et qui me paraît être un carburant et tout simplement un médium qui offre justement ce que n'offre pas le cinéma, les arts visuels ou la littérature. Et c'est autre chose, mais moi, c'est un médium que je trouve absolument extraordinaire et qui permet et même qui n'a d'intérêt presque que si ce qu'on fait est nourri et tient compte du fait qu'on n'est pas seul à faire notre truc, quoi. Moi, ça n'a aucun sens de faire aucun de mes spectacles, ça n'a aucun sens de le faire sans public, ou, comme aucun spectacle, mais je veux dire même, c'est ça le carburant. Le carburant, c'est la présence du public. Le spectacle, il fonctionne avec ça, pour les propositions en espace public, il fonctionne aussi avec l'environnement et les passants, etc. Mais en tout cas, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir effectivement, sinon, on reste chez soi et on regarde Netflix, et c'est très bien, il y a des trucs très, très bien à regarder chez soi sur son canapé, mais la grande carte à jouer, à mon avis, du spectacle vivant, c'est de travailler ces questions-là. Et d'ailleurs, peut-être il y a des spectacles vivants qui ne travaillent pas assez à mon goût, mais voilà, il me semble que c'est ça la carte à jouer. Et c'est ça qui est, je pense, dont je suis convaincu que ça reste captivant pour un public. Moi compris d'ailleurs en tant que public. Donc voilà, et après nous on propose des... Oui, c'est sûr qu'on travaille, on propose des expériences un peu aux gens, on pourrait presque appeler ça plus des expériences que des spectacles parfois, mais par exemple on a fait un spectacle qui s'appelle Anne Paratée, qui est un spectacle qui se propose de prendre la mesure de tout ce que vous ratez pendant que vous assistez à ce spectacle. Donc pareil, c'est un petit jeu de l'esprit. Un des derniers spectacles qu'on a fait s'appelle La Fondation du Rien, et il propose aux gens de s'inscrire à des activités annulées pour se fabriquer du temps libre. Donc c'est toujours des petites invitations un peu parfois un peu absurdes, mais en tout cas qui supposent que le public ensuite s'investisse d'une certaine manière s'approprie le sujet en fait avec moi. Mais donc c'est des spectacles qui marchent à ça en fait, qui nécessitent ça, ouais.
Marion Coutarel, qu'amène-t-elle dans sa collaboration artistique dans le spectacle ?
Alors, Coutarel, elle amène beaucoup. C'est quelqu'un avec qui je travaille depuis très longtemps, qui est metteur en scène aussi. On se connaît depuis 20 ans, plus de 20 ans même. Et c'est une personne qui m'est extrêmement précieuse parce qu'elle vient, elle n'est pas là tout le temps sur les répétitions ni sur les phases d'écriture, mais très régulièrement, c'est la personne qui va me dire « Attends, là, c'est n'importe quoi, tu fais fausse route » ou alors « Non, ok, ça, c'est super » ou « Ça, tu peux franchement le couper parce que ça n'a pas d'intérêt » ou voilà, c'est quelqu'un qui va renvoyer la balle en fait, et c'est extrêmement précieux et on se connaît très 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 bien, donc si jamais elle me dit « Ça, c'est naze », c'est que je vais même pas discuter, quoi. C'est qu'elle a raison, quoi, parce qu'elle sait ce que moi je tente de faire. Et parfois quand on est en train d'écrire ou en train de répéter, on peut parfois, et c'est normal, s'égarer un peu, et voilà, des fois on trouve des choses intéressantes, des fois on s'égare vraiment, et dans ces cas-là il y a quelqu'un qui dit non, ça vraiment non, et du coup voilà, c'est un avis, c'est comme mes yeux, quoi. Je peux enlever mes yeux et voilà, elle joue le rôle de mes yeux quand moi je vois plus rien parfois pendant une création, pendant des répétitions. Voilà ce qu'elle apporte, c'est beaucoup.
Voilà un spectacle qui dure une heure. Avant et après, il y aura aussi l'accueil et peut-être une possibilité de rencontre avec vous.
Le bar est ouvert une heure avant la représentation et une heure après. Et oui, après la représentation, il y a un temps d'échange plus informel que formel. Il n'y a pas de bord plateau qui est prévu, mais si les artistes l'échangent avec Nicolas ou avec Gaël, le régisseur du spectacle, qui fait partie de manière très présente dans la compagnie, c'est aussi possible.
Nicolas, merci beaucoup en tout cas d'être avec nous par téléphone pour nous parler donc de L'Origine du Monde, qui se jouera vendredi 21 novembre à 19h au Théâtre Lézère. Et je remercie aussi Mathieu d'être venu pour nous en parler. Et peut-être on se reverra prochainement pour d'autres spectacles.
Oui, je dirais juste un mot pour dire qu'on a lancé l'opération du cirque Trottola Strano qui va jouer, donc compagnie de cirque bien connue, qui va jouer sous chapiteau 6 fois son spectacle fin février, début mars, et qu'on a commencé la vente en billetterie. Donc n'hésitez pas à prendre vos places, il y a 1800 places qui nous attendent pour accueillir ce fabuleux spectacle de cette compagnie installée à Die depuis si longtemps et qui fait un travail aussi étonnant et aussi fort en cirque.
Nicolas Heredia, bonne soirée.
Bonne soirée. À vendredi, Nicolas.
Au revoir, Mathieu. Ouais.
Étrange qui pousse au fond des bois, cachée près d'une source, elle rêve d'un roi qui l'emmènerait un jour au fond d'un grand jardin où elle deviendrait caressée par ses mains. Fleur timide, cultivée en secret par les doigts d'une fée qui a des yeux de feu. Les mâles qui la voient prennent un air niais. C'est une fleur mystique qui les pousse aux aveux. Pétale rose dans son amour troublant, qui connaît l'art du temps et des métamorphoses. C'est une fleur qui sait le grand secret des choses. Tremblante d'état.